Dans les campagnes suivantes, est-ce qu'il y a quelqu'un, pas une campagne, mais quelqu'un qui veut parler?
Je peux.
Bah, je veux bien, ouais, c'est bon.
Ouais, c'est mon
Attends.
pote. Ouais.
Bon, Fox, il va bientôt être 20... oui, il est 22h01. Ah, attends. Avant de nous dire quelque chose, on va regarder. Sinon, on n'a pas un truc à te dire. Fox, donc, il pourrait nous parler de Terreur sur Antexpress, des Fungi Diogot. Tu serais pendant la merde, hein. Nightmare
Au
Agency.
royaume des ombres.
Ah, le royaume des ombres, putain,
Ah,
ouais,
le
ça
royaume
c'est
des
bon
ombres,
ça.
c'est ça.
Moi, j'ai bien envie de vous parler de Nightmare. C'était la première que j'ai jouée d'ailleurs.
Ah, puis en plus, on va te défoncer parce que c'est hyper
Ah
dirigiste.
ah
Bon, tout le monde est d'accord pour Nightmare?
C'est parti.
Ouais.
Allez, Fox, il est 22h01, bientôt 22h02. Tu as 10 minutes environ, hein, tu t'arrêtes quand tu veux, pour nous faire un peu le pitch et nous donner envie. C'est parti.
Alors, c'est parti. Alors, déjà presque pour parler de Nightmare, il faudrait quasiment avoir une petite musique de jazz en fond sonore parce que je pense que c'est un des éléments d'ambiance indispensables. Voilà, c'est noté. Alors, j'ai ressorti mon exemplaire, donc à la couverture à moitié jaunie maintenant, assez étrange. Et comme je vous l'ai dit, ça a été la première campagne que j'ai réellement maîtrisée. Et ça a été un souvenir magnifique. Alors pour plusieurs raisons, je vais essayer de vous développer. La première chose, c'est que à l'époque où je l'ai joué, effectivement 12 scénarios, ce qui est déjà pas mal lorsqu'on est jeune et qu'on investit dans un supplément, avec une difficulté qui montait de manière assez crescendo, je pense assez adaptée à des joueurs débutants, peut-être un peu moins pour le MJ, on en parlera sûrement tout à l'heure lorsqu'on fera la petite confrontation. Une grande variété de thèmes, on parlait bien sûr de la prohibition, les vampires, les monstres cthuliens par pure essence, donc avec une grande variété. Souvent, des fois, je trouve d'ailleurs avec soit un petit côté pulp ou horrifique pur en fonction des scénarios, donc c'était très très agréable. Le tout dans une ambiance vraiment jazzy et avec quelque chose qui est tout en filigrane de la campagne, qui d'ailleurs pour lesquels certains peuvent totalement passer à côté, c'est la création réelle d'une agence de détective privée. Nous commençons par zéro, vraiment le rêve d'un des joueurs, des prétirés qui constituent cette campagne, jusqu'à sa montée en apothéose avec toutes les petites étapes, qui rajoutent vraiment un côté ambiance énorme. Alors, c'est une campagne, lorsque sur TOC, Vonve avait en particulier travaillé sur la sortie de Nightmare 2 avec Olivier, l'un des auteurs, c'est vraiment une campagne qu'a vécue. Hein. C'est-à-dire qu'elle est le produit de joueurs et d'un gardien qui ont joué, qui ont vraiment aimé leur perso et qui ont retranscrit au fur et à mesure de cette campagne ce qu'ils ont vécu. Et cet amour de cette campagne telle qu'ils eux l'ont vécu, on le retrouve réellement dans toutes les petites nouvelles hein, qui sont réparties dans l'ouvrage, qui sont intitulées I Had a Dream, qui retracent un peu l'histoire, qui sont ces interludes entre les différents scénarios, et qui, pour, à mon avis, un gardien expérimenté, constituent par elles-mêmes des idées de scénarios à développer au-delà des 12 scénarios qui sont créés. Alors, chose indispensable, il y a 4 PNJ qui sont présentés au départ, franchement haut en couleur. Pas jouer avec les prétirés, je pense que c'est une erreur. Alors, tout simplement parce que, en particulier pour l'un d'entre eux, Chuck, le destin qui va être le sien est à exploiter totalement.
Juste un truc, Fox, quand
Ouais.
tu parles de PNJ, c'est les prétirés, c'est ça?
Ouais, pardon, ouais, les prétirés, tout
D'accord,
à fait. Hein.
ok.
C'est 4 prétirés, dont Chuck, dont le destin va être à exploiter totalement. Ça va être terrible, honnêtement, pour celui qui l'aura choisi. Mais ça peut créer clairement le scellement, l'identité de cette agence au fur et à mesure de l'évolution de la campagne. Donc ça, quelque chose vraiment d'extraordinaire. Alors, j'ai parlé de la difficulté. Il est vrai qu'un gardien débutant se contentera de faire tous les scénarios de manière assez linéaire, dirigiste. D'ailleurs, sans peut-être y trouver l'essence, mais je pense que un groupe débutant se fera déjà plaisir avec ça. Mais je pense qu'avec un gardien expérimenté, et même des joueurs expérimentés, la création de la campagne, qui est vraiment en filigrane de l'intégralité de la création de cette agence de détective, qui est vraiment en filigrane sur l'intégralité de cette campagne, est le gros morceau. Et ce qui sera d'ailleurs très difficile pour quelqu'un d'estimer la durée de jeu. Quelqu'un qui fera les 12 scénarios, on aura, bon, c'est des scénarios qui peuvent à peu près durer une séance à chaque fois de 8 heures, ça peut aller globalement assez vite. Mais si on commence à rentrer dans le détail de faire vivre cette agence et tous les petits éléments connexes qui vont créer le Cotton Club, etc., etc., il y a quelque chose d'énorme, et qui pourra durer très très longtemps avec la sortie sur Toc de la deuxième épisode, même si hélas le troisième n'est jamais sorti. Alors quoi dire d'autre? Des aides de jeu plus plus plus. Alors il faut admettre que les illustrations sont parfois moyennes, même souvent, mais elles ont un vrai charme. Et d'ailleurs ceux qui peuvent aller sur Toc les retrouveront aussi d'autres illustrations originales qui nous avaient été données par les auteurs à l'époque. Elles ont été dessinées par un gars de l'équipe, c'est-à-dire un gars de l'équipe qui a fait jouer cette campagne. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les dessins qui sont tout au long de ce supplément, malgré leur qualité souvent moyenne, elles retranscrivent réellement ce qu'ont vécu toute cette équipe. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment un point fort. C'est-à-dire que contrairement à des fois des campagnes qu'on sent très peu testées, avec des gros fils, etc., etc., là, lorsqu'on lit cette campagne, lorsqu'on joue cette campagne, on a vraiment l'impression de repartir sur les traces d'un groupe de joueurs des années 80 qui a vécu des vrais plaisirs et une vraie aventure autour de cette création de cette agence, la Nightmare Agency. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur
D'accord.
l'ensemble de cette campagne.
Il te reste 3 minutes si tu veux encore.
3 minutes. Alors là encore, on va faire de la pub pour Toc, hein, bon. Toc, du fait de la sortie de Nightmare Agency 2 sur Toc à l'époque, présente franchement pas mal à la fois des aides de jeu, des conseils sur la mise en place avec des inspi. En particulier, il y a tout le travail à faire sur la dialectique, tout l'argot qu'il va falloir utiliser. Ça y joue vachement sur toutes ces histoires de jazzman, de musique, toute l'inspiration à la fois cinématographique, l'inspiration en lecture qui sera nécessaire pour vraiment donner ce côté voilà, années 20. Et moi, le souvenir que j'en ai de cette campagne, je trouve que c'est quasiment celle pour laquelle le cachet historique m'est le plus resté. Autant certaines pouvaient être des fois fragmentaires, mais le fait de vivre cette agence de détective très orientée en plus à certains moments avec la mafia, toute la prohibition, on est vraiment dans l'époque. Et de manière assez simple, sans s'en rendre compte d'ailleurs, hein, et donc sans faire des efforts outre mesure pour pouvoir se mettre dans cette ambiance. Et cette Nightmare Agency, si vous rajoutez la bande son qui va bien, etc., sera totalement dans l'ambiance des années 20, tel qu'on peut le rechercher. Voilà, donc vous trouverez bien sûr aussi le Nightmare Agency 2, hein, sur Toc, qui avait été mis en page par Vonv à l'époque, lorsque tout avait été redonné par Olivier, donc un superbe supplément. Là, quand on commence à attaquer Nightmare Agency 2, là on en a pour un sacré temps, hein, de jeu, avec la frustration de ne pas avoir eu le 3, qui, selon les dires de l'auteur, faisait vraiment monter en apothéose l'ambiance telle qu'on pouvait la sentir au fur et à mesure de Nightmare 1 et 2. Pour moi, c'est une campagne qui a été injustement critiquée à cause
T'inquiète
de.
pas, on arrive.
Voilà. Et d'ailleurs, je vous laisserai justement montrer vos objections là-dessus pour pouvoir la défendre au mieux possible.
Bon, bah super. Eh ben, voilà qui est bon. Eh bien, messieurs, moi y compris, on peut y aller pour questions. Donc, je vais commencer. Une petite question. Ça se passe en France?
Non, ça se passe aux États-Unis.
D'accord.
Voilà, hein, donc
Je peux
c'est
poser.
pour ça que voilà, tu vas vraiment vivre la période de la prohibition, en particulier autour du Cotton Club.
Mais
Un petit.
pas. J'ai pas. Moi, j'aime pas le côté chiant historique. On va pas me saouler avec de l'historique. Ou alors, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on va pas trop me décrire tout. On va me la faire jouer à l'époque, c'est ça?
Voilà, alors tu vas la vivre, mais tu vas pas la subir. Tout simplement parce que les codes qui ont été utilisés dans Nightmare sont des. Je veux dire, c'est la culture commune autour de ces années 20. C'est-à-dire, par exemple, rencontrer Al Capone, ce qui sera le cas dans certains scénarios. Je veux dire, c'est la connaissance et c'est les images telles que chacun d'entre nous, en particulier lorsqu'on a découvert l'appel, on se représentait en fait cette époque. Et donc, un peu effectivement, les incorruptibles, etc., etc., tu te retrouves plus dans cet imaginaire fantasmé des années 20 plutôt que dans des années 20 totalement historiques. Et
D'accord.
ce qui fait que l'appréhension que tu peux en avoir et l'intégration de toute cette histoire est globalement assez simple. Il faut d'ailleurs pas oublier que Nightmare a été conçu dans les années 80, où je pense l'accès à l'information autour de cette époque n'était pas aussi riche que la nôtre, hein. Donc on est plus sur du cliché facilement accessible et utilisable.
D'accord. Les autres?
D'après ce que tu me dis, c'est un petit scénario. Est-ce qu'il y a quand même un fil conducteur, ou est-ce qu'on peut les faire dans le bon ordre, ou est-ce que c'est juste du recul de scénario?
Non, non, il faut vraiment. Tous les scénarios, en fait, constituent la création de cette. Donc, tu as des enquêtes, et au fur et à mesure de ces enquêtes, tu vas voir naître, avec les contacts qui vont se créer, les PNJ qui vont apparaître. Alors là, vous avez des PNJ haut en couleur à aborder, et qui seront des contacts qui seront utiles sur les scénarios qui suivent, etc., etc. Il y a une vraie cohérence entre les scénarios qui est très très fine. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être expérimenté pour l'utiliser, parce que on peut facilement passer à côté. Mais tous les scénarios que tu vas faire, tu les fais dans un ordre chronologique, hein, avec une vraie montée en puissance. Et en particulier, je l'ai dit, pour certains pré-tirés, l'histoire va leur faire très mal. Donc on
Mais
peut spoiler.
la question derrière celle de Sergissant, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est on va être obligé de les jouer dans un certain ordre.
Ouais, tout à
Donc
fait.
est-ce que ben voilà la critique qu'on a le plus souvent fait à Camus, pardon, je vais dire à Camisole, je sais pas pourquoi. La critique qu'on a plus souvent fait à Nightmare Agency, c'est le dirigisme, c'est-à-dire qu'on rejoue une campagne qui a été jouée. Pour toi, est-ce que ça demande quand même du travail pour la rendre, je dirais, ouverte, ou alors la pratiquer comme elle est décrite dans le bouquin suffit?
Alors non, elle va demander un peu de travail. Pourquoi? Tout dépend en fait de la manière dont vous allez l'aborder. La première chose, c'est que nous sommes dans la création d'une agence. Donc le dirigiste tel qu'on le rencontre, il est évident, puisque les détectives, hein, puisqu'ils sont tous détectives privés à terme, vont travailler à la commande. C'est-à-dire qu'une grande partie des histoires qu'ils vont vivre seront liées à des commanditaires. Donc ça, c'est ce qu'on va peut-être appeler la partie encadrée, dirigée et scénarisée, imposée par la campagne. Mais tout ce qui est autour, c'est là que la liberté est vraiment grande. C'est-à-dire que lors de la présentation des PNJ, les motivations de chacun sont clairement décrites, en particulier pour Chuck, qui est vraiment le pivot central de la campagne, donc un black qui cherche effectivement à créer cette agence. Et c'est autour de tout ça. Alors, et c'est vrai que dans la campagne, lorsqu'on la lit, c'est pas ce qui est écrit, donc c'est ça qui demandera peut-être un peu plus de travail, mais qui va aussi plutôt répondre aux demandes des joueurs au fur et à mesure. Là, c'est totalement libre. On est vraiment dans une période, du moins sur une partie plutôt bac à sable, où au regard des exigences que chacun d'entre eux vont pouvoir avoir pour développer leur personnage, développer l'histoire de cette agence, le gardien va devoir être hyper actif pour pouvoir vraiment donner ce sel.
Et
Et je dirais ce qui sera vraiment important. Ouais, vas-y.
ouais, parce que, et puis pour aller dans ton sens, les gens qui critiquent finalement la linéarité, il faut voir que c'est un principe de base du scénar. C'est-à-dire qu'on est une agence et on attend qu'il y ait des cas qui nous soient donnés.
Exactement.
Donc finalement, ce que tu mets en exergue, qui est très intéressant, c'est de se dire les cas, on va les avoir. Donc on les aura forcément dans l'ordre dans lequel le gardien va les donner. C'est pas les joueurs qui vont les choisir. Donc par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'ils découvrent ce qu'il y a derrière chacun de ces cas et qui fait évoluer leur personnage et le groupe, je pense.
Exactement. Toute la storyline et toute l'histoire en fait de cette agence va se développer grâce à ces enquêtes. Mais toute la richesse sur la construction, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur la création de cette agence, sur le rachat à un moment d'un club de musique, parce que voilà, encore une fois, l'aspect jazz, c'est un truc à construire, mais c'est énorme, hein. Donc, avec les recrutements éventuels d'autres personnes, de contacts, non, non, il y a vraiment une liberté complémentaire, et là qui est franchement liée à la fois à la synergie qu'il y aura dans le groupe de joueurs. Et ça, c'est indispensable. Il faut qu'il y ait une vraie complicité à un moment pour pouvoir le monter de manière réelle, vivant. Et c'est ça qui a fait la force, je pense, de Nightmare lorsqu'ils l'ont joué. Et puis une réactivité du gardien qui doit être capable, au-delà de, effectivement, des commanditaires qu'il va pouvoir gérer sur les enquêtes, où ça sera globalement assez simple, mais pas toujours. Il devra être hyper actif pour pouvoir répondre à la commande.
J'ai une question.
Les demandes de ses joueurs. Oui.
Une question de Waller. Le destin du personnage de Chuck, donc si j'ai bien compris, est-ce que c'est pas trop lourd? Enfin, j'entends, est-ce que ça devient pas trop sensible à un moment? Est-ce que les autres personnages ne vont pas sentir un peu trop que l'arc tourne autour de un seul d'entre eux, quoi?
Non. Alors, effectivement, Chuck est central dans la création de l'agence, mais il y a plusieurs enquêtes en particulier qui mettront aussi en exergue d'autres, qui vont en particulier, que ce soit Jason, Madison, etc., qui vont devoir, sur certaines enquêtes, être mis en avant, et qui vont d'ailleurs développer leur propre histoire. Par exemple, un d'entre eux va se découvrir une vraie sensibilité vis-à-vis de tout ce qui est chamanisme indien, par exemple.
Attention, Dweller, on entend un peu des trucs derrière. Merci.
Et donc, il y aura même, si mes souvenirs sont bons, il y a un petit scénario solo pour lui qui peut être joué pour pouvoir le faire travailler un petit peu plus.
Par contre, j'irai dans le même sens que Dweller sur le côté Chuck. Est-ce que tu es obligé finalement de donner les personnages à tes joueurs? Est-ce qu'ils peuvent les choisir, ou est-ce que finalement, sachant un peu le futur de ces personnages, tu les donnes à tes joueurs connaissant tes joueurs?
Moi, j'aurais tendance à effectivement faire ton casting. Moi, je vois Nightmare, c'est vraiment un film des années 20. C'est-à-dire que il va falloir que tu trouves parmi tout ton groupe ceux qui seront les plus adaptés pour jouer les individus. C'est tellement précis le background qui est prévu. Par exemple, il faut à tout prix que, à mon avis, ton joueur qui est le plus moteur souvent dans tes campagnes, etc., t'en as toujours un. Il faut que ce soit lui qui soit plutôt que Chuck, hein, parce qu'il sera vraiment important. Au contraire, si tu confies ce rôle-là à celui qui est toujours au fond de la table, à noter et à rien dire, ça risque de poser des soucis. Donc, ouais, le gardien a vraiment tout un travail à faire pour préparer ça. Et je pense que ceux qui la critiquent sont vraiment passés à côté de ces parties peut-être un peu plus complexes. C'était moins accessible peut-être.
Question subsidiaire, ouais. Est-ce que, comme à la manière d'un COPS, à la limite on peut faire le parallèle sur le thème, est-ce qu'à la manière d'un COPS, c'est une campagne qui accepterait l'idée d'un joueur qui occasionnellement n'est pas là? Est-ce que les scénarios ont la nécessité d'avoir tous les personnages, ou est-ce que justement tu peux t'accommoder d'avoir une équipe à géométrie variable en fonction des présences de joueurs?
Ouais, alors il y a vraiment des joueurs incontournables, ça c'est sûr, mais c'est pas très gênant si certains sont pas toujours là. Et tu auras en plus une galerie de PNJ qui seront ta réserve en plus, que tu vas utiliser, que tu vas rencontrer au fur et à mesure, ce qui fait que la mortalité sera pas si grave que ça sur le fond. Donc ouais, tu peux avoir, si t'as un joueur qui est pas très fiable par exemple, tu peux lui coller rapidement un PNJ. Qui sera peut-être pas très important pour la storyline en background de la campagne, mais qui lui permettra de se faire plaisir au fur et à mesure sur plutôt la partie enquête ponctuelle, commanditaire, etc., etc.
Ok.
Vas-y, pardon.
Pardon, excuse-moi. Et à contrario, moi j'ai un format de jeu un peu particulier avec une partie de mes joueurs. On se voit deux fois dans l'année sur des week-ends de 4 jours où on enchaîne 4 jours de jeu de rôle. Donc ça veut dire 4 jours intenses.
Intéressant, ça, oui.
Et mon groupe est de 6 joueurs. Donc est-ce que, par exemple, tu imagines que ça pourrait être une campagne qui conviendrait? Moi, voilà.
Avec des grosses séances, quoi, ouais. Très
grosses
juste.
Grosses séances et 6 joueurs, surtout.
Ouais, 6 joueurs. Le format initial est effectivement avec 4 joueurs. Tu as 4 joueurs qui sont clairement ceux, le corps de Nightmare. Bon, après, t'en mets 6, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant. Moi, je pense que si tu joues en petite période comme ça, tu risques justement là, de ne pas passer à côté de Nightmare. C'est-à-dire que ça sera tellement intense qu'à mon avis, les interactions que tu vas réussir à créer sur ton week-end, elles risquent d'être vraiment très fortes.
Par contre, t'auras pas un effet trop poussé. Pousser, c'est-à-dire qu'on pousse les cas les uns après les autres, ça, tu penses que ça peut tenir sur ce genre de format? C'est-à-dire que t'as pas autant l'intérêt, si tu joues sur des petites séances, c'est que entre deux affaires, finalement, il y a un interlude, mais c'est un interlude joueur comme investigateur, quoi. Le fait de le jouer comme ça à la suite, c'est pas un peu risqué?
Ouais,
de faire affaire sur affaire, quoi, peut-être?
C'est possible.
Je pense que c'est compliqué d'enchaîner réellement les affaires. Effectivement, on a effectivement un temps et on peut dire, bah voilà, effectivement, on a besoin d'une semaine sans rien.
Ouais. Et après,
on enchaîne sur une autre semaine. C'est vrai que sur 4 jours, c'est de faire passer ça, quoi.
D'autres questions?
Non, merci.
Faut pas hésiter, hein. Des sprites, dwellers.
Non, pour moi c'est cool.
Pardon, vas-y, des sprites, après je repasse à Sergissant après. Dweller, des sprites, tu disais?
Je disais, c'est une campagne que j'avais déjà lue et commencé à préparer. J'avais aussi pas mal apprécié. Pas de questions pour moi.
Dec, Sergissant?
En fait, je voulais savoir si c'était une campagne qui était aussi mortelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir un joueur par certes, quoi.
Écoute, moi je l'ai joué deux fois, la mortalité a été très très faible. Mais je pense que c'est lié aussi à ma manière de jouer. Donc, après, il y a certains scénarios qui peuvent faire très très mal si tu lâches trop la bride.
Alors peut-être une question par rapport à cette histoire, puisque Chuck est un personnage central, est-ce que tu penses qu'il y a un risque que le joueur le sente et qu'à partir de là, justement, ça lui permette de sentir que maintenant il ne va pas se faire buter par le connard au bistrot qui est en train de lui chercher une histoire?
Ouais, mais c'est ça qui est terrible en fait, c'est que effectivement, c'est un vrai moteur, Chuck. Sauf que ce qui va lui arriver, alors sans spoiler, c'est-à-dire qu'à la fin d'un des scénarios, bon, si on va même le dire d'ailleurs, Chuck va se retrouver paralysé. Voilà, clairement, un accident dramatique sur des enquêtes. Et ce qui fait que, et c'est ça qui va être terrible, c'est que le joueur va devoir s'en séparer. C'est-à-dire que c'est le gardien qui va prendre la main sur Chuck, qui va le garder pour faire vivre cette campagne. Mais ça montre que même si la mortalité est pas obligatoirement énorme, on peut perdre voilà beaucoup plus. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a commencé à monter, qu'on apprécie et qu'on croyait un peu voilà investi parce qu'il était personnage central. Il le restera d'ailleurs.
D'accord.
Pas du tout dans le même registre et même contexte.
Donc par contre, là, vas-y.
Non, je t'en prie, vas-y.
Parce que donc ça prend le contre-pied de ce qu'on pourrait croire être une campagne de l'appel au Toulouse, c'est-à-dire que je dirais c'est un peu comme dans le film américain, le chien et le black ils s'en sortent toujours. Enfin non, le black se sacrifie à la fin, mais le blanc ou le chinois et le chien s'en sortent à chaque fois. Et ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que justement il reste quand même du cthulien dans la campagne?
Oui, t'as des morceaux de poulpe à l'intérieur. Hein.
Et alors, comme c'est par petit scénar, est-ce que c'est... je pense que c'est... Tu vas me répondre non, mais est-ce que c'est genre une montée crescendo face à un ennemi récurrent, ou finalement, comme l'évolution de la campagne est basée sur l'évolution de cette agence, finalement, ce sont des événements sporadiques, cthuliens, mais peut-être grandissants en dangerosité, mais c'est juste des événements séparés les uns des autres.
Dans le Nightmare 1, oui.
D'accord.
Mais reste. En fait, les adversaires sont plutôt. Alors, d'ailleurs, c'est pas des adversaires obligatoirement dangereux. Par exemple, tout au long de ces campagnes, ils ont un concurrent, entre guillemets, plutôt d'ailleurs pas très bon, qui est un membre des forces de l'ordre, qui voit en Nightmare les empêcheurs de tourner en rond. Souvent, ils sont plus efficaces que lui, d'ailleurs. Et donc, voilà, les interactions avec des Némésis, elles sont pas obligatoirement mortelles. Mais et c'est ça aussi qui rajoute un charme peut-être un peu différent, c'est-à-dire que on a par exemple cet inspecteur qui revient tout le temps et qui les fait chier, et c'est ça voilà, c'est des choses qui prennent peut-être un peu contre-pied par rapport à ce qu'on a l'habitude dans plein de campagnes, mais qui aussi je trouve rajoutent un truc un peu sympa, c'est-à-dire qu'on est sur quand même des enquêtes toujours surnaturelles, et ça rajoute un petit côté un peu plus quotidien à l'histoire que moi j'avais vraiment apprécié.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non.
Donc on va lever notre petite plaquette. Alors moi je dirais, je lui mettrais, en réalité je lui aurais mis 4, mais je lui mettrais 3 parce que c'est quand même une campagne qui est assez demandeuse en termes de autour. C'est-à-dire qu'il faut avoir les bons joueurs, il faut avoir les bonnes périodes de temps, et il faut des joueurs qui soient capables de faire du méta-jeu, de pas se laisser en disant « Ah, trop facile » et tout ça. Donc je lui mets 4, parce que monter une agence, c'est génial, mais je lui mets 3 en réalité, parce que c'est compliqué à mettre en place. Des sprites, tu lui mets combien? Par contre, tu l'as vachement bien défendu, hein, Fox.
Moi je lui mettrais 3, comme toi, parce que je trouve qu'elle a une ambiance vraiment géniale, qu'on retrouve difficilement dans d'autres campagnes, ne serait-ce qu'à cause de la posture. Le fait de jouer des détectives et un groupe de détectives, ça apporte vraiment quelque chose, une sorte de souffle, un peu pulp, quelque chose de vraiment sympa. Par contre, ce que j'aime pas trop dans cette campagne, c'est l'impression de mettre les chaussettes mouillées de quelqu'un derrière lui, à savoir marcher dans les personnages qui ont existé. Et si tu veux, ça fait bizarre. C'est l'impression qu'on va toujours, on va faire quelque chose que d'autres ont mieux fait que nous avant. Et c'est une campagne, enfin c'est une sensation que j'ai déjà pu avoir avec d'autres campagnes. Je sais pas si vous connaissez par exemple Dragonlance. Où,
Oui, exactement.
On propose d'interpréter les personnages du premier groupe de joueurs. L'idée est sympa, mais quand elle oriente trop le déroulement de la campagne, j'ai vraiment l'impression de marcher dans les traces de quelqu'un et de toute façon jamais pouvoir arriver au niveau de jeu auquel ils ont été. Voilà, donc 3.
Ok, Camisole.
Bah, moi je sais pas, je suis un peu mi-figue mi-raisin, c'est vrai que tu donnes envie, hein, mais tu vois, je donnerais 2,5 parce que je sais pas trop. Le côté, comme tu dis, des sprites, de voir rejouer des personnages qui ont déjà été joués avant, c'est peut-être le côté qui freine un peu, quoi.
Dek, Sergissant.
Moi je suis très fort parce que, bon, effectivement, l'idée de monter une agence, c'est très fun. Par contre, j'aime pas trop. J'aime bien laisser mes joueurs choisir leur perso. Moi, je pense qu'il va y avoir un gros. Si je dis un perso, ben voilà. Mes joueurs, voilà, vous créez vos propres persos et puis on fera juste.
On a pas entendu la fin de ta phrase, Sergi.
Je disais, j'ai un peu de mal avec l'idée de.
De forcer, ouais.
Du nouveau perso, puis en fait, derrière. Je vous impose ça parce qu'il y a besoin. Ça fait des cordes un peu trop gros.
D'accord. Dweller, de ton côté ?
Moi, de mon côté, je dirais entre 2,5 et 3. La linéarité ou l'idée de jouer des personnages prétirés, ça me gêne pas du tout parce que c'est parfois dans ce genre de pot qu'on fait les meilleures soupes, mais parce que justement, ça donne tout de suite des directives et des dynamiques. Moi, je serais assez curieux. Je vais mettre 2,5, 3. J'ai envie de la lire parce que vous m'avez de me donner envie pour voir si ça conviendrait à mon format de joueur. Voilà.
Bien joué, Fox. Ah, tu l'as bien défendu parce que c'était pas gagné.